Petite misère de la vie conjugale, première partie, chapitre 11. Les travaux forcés. Admettons ceci, qui, selon nous, est une vérité remise à neuf. Axiome. La plupart des hommes ont toujours un peu de l'esprit qu'exige une situation difficile, quand ils n'ont pas tout l'esprit de cette situation. Quant aux maris qui sont au-dessous de leur position, il est impossible de s'en occuper. Il n'y a pas de lutte. Ils entrent dans la classe nombreuse des résignés. Adolphe se dit donc, « Les femmes sont des enfants. Présentez-leur un morceau de sucre. Vous leur faites danser très bien toutes les contredanses que dansent les enfants gourmands. Mais il faut toujours avoir une dragée, la leur tenir haut, et que le goût des dragées ne leur passe pas. Les Parisiennes, Caroline est de Paris, sont excessivement vaines, elles sont gourmandes. On ne gouverne les hommes, on ne se fait des amis qu'en les prenant tous par leurs vices, en flattant leurs passions. Ma femme est à moi. » Quelques jours après, pendant lesquels Adolphe a redoublé d'attention pour sa femme, il lui tient ce langage. « Tiens, Caroline, amusons-nous. Il faut bien que tu mettes ta nouvelle robe. » Là, pareille à celle de Madame Deschard. « Et, ma foi, nous irons voir quelques bêtises aux variétés. » Ces sortes de propositions rendent toujours les femmes légitimes de la plus belle humeur. Et d'aller. Adolphe a commandé pour deux, chez Borel, au Rocher de Cancale, un joli petit dîner fin. Puisque nous allons aux variétés, dînons au cabaret, s'écrie Adolphe sur les boulevards, en ayant l'air de se livrer à une improvisation généreuse. Caroline, heureuse de cette apparence de bonne fortune, s'engage alors dans un petit salon où elle trouve la nappe mise et le petit service coquet offert par Borel aux gens assez riches pour payer le local destiné aux grands de la terre, qui se font petits pour un moment. Les femmes, dans un dîner prié, mangent peu. Leur secret harnais les gêne. Elles ont le corset de parade. Elles sont en présence de femmes dont les yeux et la langue sont également redoutables. Elles aiment, non pas la bonne, mais la jolie chair, sucer des écrevisses, gober des cailles au gratin, tortiller l'aile d'un coq de bruyère, et commencer par un morceau de poisson bien frais, relevé par une de ces sauces qui font la gloire de la cuisine française. La France règne par le goût en tout, le dessin, les modes, etc. La sauce est le triomphe du goût en cuisine. Donc, grisettes, bourgeoises et duchesses sont enchantées d'un bon petit dîner arrosé de vin exquis, pris en petite quantité, terminé par des fruits comme il n'en vient qu'à Paris, surtout quand on va digérer ce petit dîner au spectacle, dans une bonne loge, en écoutant des bêtises, celles de la scène, et celle qu'on leur dit à l'oreille pour expliquer celle de la Seine. Seulement, l'addition du restaurant est de 100 francs. La loge en coûte 30, et les voitures, la toilette, gants frais, bouquets, etc., autant. Cette galanterie monte à un total de 160 francs. Quelque chose comme 4 000 francs par mois, si l'on va souvent à l'opéra comique, aux Italiens et au grand opéra. 4 000 francs par mois valent aujourd'hui 2 millions de capital. Mais tout honneur conjugal vaut cela. Caroline dit à ses amis des choses qu'elle croit excessivement flatteuses, mais qui font faire la moue à un mari spirituel. Depuis quelque temps, Adolphe est charmant, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tant de gracieuseté, mais il me comble. Il ajoute du prix à tout par ses délicatesses qui nous impressionnent tant, nous autres femmes. Après m'avoir menée lundi au Rocher de Cancale, il m'a soutenue que Véry faisait aussi bien la cuisine que Borel, et il a recommencé la partie dont je vous ai parlé, mais en m'offrant au dessert un coupon de loge à l'opéra. L'ont donné Guillaume Tell, qui, vous le savez, est ma passion. « Vous êtes bien heureuse, » répond Madame Deschard sèchement, et avec une évidente jalousie. « Mais une femme qui remplit bien ses devoirs mérite, il me semble, ce bonheur. » Quand cette phrase atroce se promène sur les lèvres d'une femme mariée, il est clair qu'elle fait son devoir, à la façon des écoliers, pour la récompense qu'elle attend. Au collège, on veut gagner des exemptions. En mariage, on espère un châle, un bijou, donc plus d'amour. Moi, ma chère, Madame Deschard est piquée, moi, je suis raisonnable. Deschard faisait de ces folies-là, j'y ai mis bon compte. Écoutez donc, ma petite, nous avons deux enfants, et j'avoue que 100 ou 200 francs sont une considération pour moi, mère de famille. Hé, madame, dit madame de Fichtaminel, il vaut mieux que nos maris aillent en partie fine avec nous que... Deschard, dit brusquement madame Deschard en se levant et saluant. Le sieur Deschard, homme annulé par sa femme, n'entend pas alors la fin de cette phrase, par laquelle il apprendrait qu'on peut manger son bien avec des femmes excentriques. Caroline, flattée dans toutes ses vanités, se rue alors dans toutes les douceurs de l'orgueil et de la gourmandise. Deux délicieux péchés capitaux. Adolphe regagne du terrain. Mais, hélas, cette réflexion vaut un sermon de petit carême. Le péché, comme toute volupté, contient son aiguillon. De même qu'un autocrate, le vice ne tient pas compte de 1000 délicieuses flatteries devant un seul pli de rose qui l'irrite. Avec lui, l'homme doit aller crescendo, et toujours. Axiome. Le vice, le courtisan, le malheur et l'amour ne connaissent que le présent. Au bout d'un temps difficile à déterminer, Caroline se regarde dans la glace, au dessert, et voit des rubis fleurissant sur ses pommettes et sur les ailes si pures de son nez. Elle est de mauvaise humeur au spectacle, et vous ne savez pas pourquoi, vous, Adolphe, si fièrement posé dans votre cravate, vous qui tendez votre torse en homme satisfait. Quelques jours après, la couturière arrive. Elle essaie une robe, elle rassemble ses forces, elle ne parvient pas à l'agrafer. On appelle la femme de chambre. Après un tirage de la force de 2 chevaux, un vrai 13e travail d'Hercule, il se déclare un hiatus de 2 pouces. L'inexorable couturière ne peut cacher à Caroline que sa taille a changé. Caroline, l'aérienne Caroline, menace d'être pareille à Madame Deschard. En termes vulgaires, elle l'épaissit. On laisse Caroline atterrer. Comment avoir, comme cette grosse Madame Deschard, des cascades de chair à la Rubens? Et c'est vrai, se dit-elle. Adolphe est un profond scélérat. Je le vois, il veut faire de moi une mère gigogne et m'ôter mes moyens de séduction. Caroline veut bien désormais aller aux Italiens. Elle y accepte un tiers de loge, mais elle trouve très distinguée de peu manger et refuse les parties fines de son mari. « Mon ami, dit-elle, une femme comme il faut ne saurait aller là souvent. On entre une fois par plaisanterie dans ses boutiques, mais s'y montrer habituellement, fi donc !» Borel et Véry, ces illustrations du fourneau, perdent chaque jour 1000 francs de recettes à ne pas avoir une entrée spéciale pour les voitures. Si une voiture pouvait se glisser sous une porte cochère et sortir par une autre en jetant une femme au péristyle d'un escalier élégant, combien de clientes leur amèneraient de bons, gros, riches clients? Axiome. La coquetterie tue la gourmandise. Caroline en a bientôt assez du théâtre, et le diable seul peut savoir la cause de ce dégoût. Excusez, Adolphe, un mari n'est pas le diable. Un bon tiers des Parisiennes s'ennuie au spectacle, à part quelques escapades. Comment aller rire et mordre aux fruits d'une indécence? Aller respirer le poivre long d'un gros mélodrame, s'extasier à des décorations, etc. Beaucoup d'entre elles ont les oreilles rassasiées de musique et ne vont aux Italiens que pour les chanteurs ou, si vous voulez, pour remarquer des différences dans l'exécution. Voici ce qui soutient les théâtres. Les femmes y sont un spectacle avant et après la pièce. La vanité seule paie du prix exorbitant de 40 francs 3 heures d'un plaisir contestable, pris en mauvais air et à grands frais, sans compter les rhumes attrapées en sortant. Mais se montrer, se faire voir, recueillir les regards de 500 hommes, quelle franche lipée, dirait Rabelais. Pour cette précieuse récolte, engrangée par l'amour-propre, il faut être remarqué. Or, une femme et son mari sont peu regardés. Caroline a le chagrin de voir la salle toujours préoccupée des femmes qui ne sont pas avec leur mari, des femmes excentriques. Or, le faible loyer qu'elle touche de ses efforts, de ses toilettes et de ses poses, ne compense en guère à ses yeux la fatigue, la dépense et l'ennui. Bientôt il en est du spectacle comme de la bonne chère. La bonne cuisine la faisait engraisser, le théâtre la fait jaunir. Ici, Adolphe, ou tout homme à la place d'Adolphe, ressemble à ce paysan du Languedoc qui souffrait horriblement d'un agacin, en français, corps. Mais le mot de la Languedoc n'est-il pas plus joli? Ce paysan enfonçait son pied de 2 pouces dans les cailloux les plus aigus du chemin en disant à son agacin « Trou de Dieu de bagasse, si tu m'es fait souffrir, je te les rends bien. » « En vérité, dit Adolphe profondément désappointé le jour où il reçoit de sa femme un refus non motivé, « je voudrais bien savoir ce qui peut vous plaire. » Caroline regarde son mari du haut de sa grandeur et lui dit, après un temps digne d'une actrice, « Je ne suis ni une oie de Strasbourg, ni une girafe. » « On peut en effet mieux employer 4 000 francs par mois, » répond Adolphe. « Que veux-tu dire ? » « Avec le quart de cette somme, offert à d'estimables forçats, à de jeunes libérés, à d'honnêtes criminels, on devient un personnage, un petit manteau bleu, » reprend Adolphe. « Et une jeune femme est alors fière de son mari. » Cette phrase est le cercueil de l'amour. Aussi Caroline la prend-elle en très mauvaise part. Il s'ensuit une explication. Ceci rentre dans les 1000 facéties du chapitre suivant, dont le titre doit faire sourire les amants aussi bien que les époux. S'il y a des rayons jaunes, pourquoi n'y aurait-il pas des jours de cette couleur excessivement conjugale ?